Chapitre 10. Rendez-vous en mer. La porte n'était pas verrouillée et elle s'ouvrit sans problème. La petite pièce était presque vide, mais nous comprîmes tout de suite son usage. C'était un cachot. Il y avait un lit de camp, une petite table et une chaise, un petit lavabo et un WC dans un coin, rien de plus. Nous reconnûmes le soupirail muré que nous avions déjà repéré à l'extérieur. Les draps du lit étaient encore épars, comme si le locataire était parti, sans avoir eu le temps de ranger quoi que ce soit. Il était évident que quelqu'un avait séjourné ici récemment. Cela nous fit froid dans le dos d'imaginer qu'un prisonnier avait vécu là et qu'il y était encore quelques jours ou quelques semaines auparavant. Peut-être était-ce Antoine. Et puisqu'il n'était plus là, qu'était-il devenu? Comment le demander à son geôlier? Je pris une série de photos. Nous pourrions les montrer à la police, cela permettrait peut-être de rouvrir l'enquête. « Bon, on se tire de là ?» proposa Ursula. « Ce cachot, ça me fait des frissons dans le dos. »« Tu as raison, filons, je crois qu'on a vu ce qu'il fallait voir. » S'entraîner, nous refîmes le chemin en sens inverse et en repassant par la fenêtre de la salle de bain, par l'échelle de corde et par-dessus le portail, nous nous retrouvâmes bientôt sur la route à pédaler de toutes nos forces pour aller retrouver les autres et leur faire part de notre découverte. En fait, notre quartier général, la maison de Stéphane, était déserte en ce milieu d'après-midi. Stéphane et Henriette étaient au travail. Yvette et Amélie devaient surveiller le yacht de Jean-Claude Martin sur le port. Pourtant, nous ne perdîmes pas notre temps. En vue de ses prochaines études à Lyon, Stéphane venait d'acheter un ordinateur et cherchait à se familiariser avec cet engin qu'il n'avait jamais eu l'occasion de manipuler. Je profitai donc de son matériel pour mettre les photos que je venais de prendre dans l'ordinateur et pour imprimer celles qui montraient le mieux le cachot. J'en mis quelques-unes dans une enveloppe et, accompagné d'un petit mot, je filai jusqu'à la poste pour les envoyer à mon père. En fin de journée, nous nous retrouvâmes tous les six. Je fis un compte rendu complet de notre expédition. Et, photos à l'appui, j'expliquai notre découverte qui impressionna beaucoup Yvette. Nous eûmes beaucoup de mal à la calmer. Elle pleurait à fendre l'âme, disant qu'elle ne reverrait jamais son Antoine et que tout était de sa faute. Nous fîmes de gros efforts pour la convaincre que rien n'était encore perdu et que nous n'étions même pas sûrs que ce soit Antoine qui ait été enfermé dans le sous-sol de Jean-Claude Martin. Amélie nous fit à son tour un compte rendu de leur journée d'observation sur le port. Il ne s'était rien passé, personne n'était monté à bord du yacht. Mais avec Yvette, elles avaient beaucoup réfléchi. Comment savoir où se rendait le yacht quand il sortait le jour ou la nuit ? Il est clair que le canot de Stéphane était beaucoup trop lent pour poursuivre un gros bateau à moteur. Et même, en imaginant qu'on puisse disposer d'un bateau suffisamment rapide, comment était-il possible de suivre Jean-Claude Martin sans se faire repérer ? C'est très bien raisonné, mais cela ne nous donne pas la solution. Attends, nous nous sommes dit qu'avec un peu de chance, il allait toujours dans le même coin, ou au moins dans la même zone. Oui, c'est possible, et alors ? Alors nous avons pensé à cacher sur le yacht un petit émetteur radio qui, à l'aide d'un écran récepteur, nous renseignerait en permanence sur sa position. Comme le ferait James Bond ? Exactement. Mais nous ne sommes pas James Bond et nous ne savions pas dans quel magasin acheter ça et si même cela existe. Alors nous avons pensé à autre chose. À la place de l'émetteur, nous pourrions cacher un simple GPS enregistreur qui garderait en mémoire tous ses déplacements. Après chaque sortie du bateau, il suffirait de le récupérer pour qu'il nous donne toutes les informations qu'il aurait enregistrées, puis le remettre en place pour la sortie suivante. Il y aura un petit risque de se faire repérer car chaque fois il faudrait monter sur le bateau de Jean-Claude Martin. Mais au port, il y a du monde partout et ça brasse tellement dans tous les sens. Si le yacht va toujours dans la même zone, nous le saurons rapidement et nous pourrons l'attendre sur place avec le canot de Stéphane en se faisant passer pour des pêcheurs. Qu'en pensez-vous ? C'est une super idée, dis-je. Il faudrait faire ça le plus rapidement possible. D'accord, si nous l'installons cet après-midi, est-ce que ce sera assez rapide, chef ? Comme la journée se terminait, je crus comprendre ce qu'Amélie voulait dire. « Ça veut dire que vous l'avez déjà installé ?»« Mais oui, Yvette est allée l'acheter en début d'après-midi. Ensuite, nous avons passé un bon moment avec l'appareil et la notice pour comprendre comment s'en servir. Puis je suis montée discrètement sur le yacht pour le planquer. Tu as trouvé une bonne planque ? Je l'ai glissée sous le radeau de survie. Ce n'est pas quelque chose qu'on manipule fréquemment, sauf en cas de naufrage. Je ne crois pas qu'il puisse être découvert. Mais c'est génial ! Vous avez super bien travaillé toutes les deux. Merci, mais il reste un problème à résoudre. Comment savoir quand Jean-Claude Martin partira faire un tour sur son yacht ? Il faut qu'on sache aussi quand il sera de retour pour aller relever le GPS. À la rigueur, on pourrait continuer à laisser quelqu'un en surveillance au port. Mais le problème se complique si, par la suite, nous avons l'intention de l'attendre en mer. Il faudra que l'on sache à l'avance quand il a l'intention de sortir. Je ne suis sûre de rien, mais j'ai peut-être une idée, dit Henriette. Jean-Claude Martin possède deux téléphones portables. Ils n'ont pas la même sonnerie et de mon bureau, je fais bien la différence. L'un sonne assez souvent, ce sont des fournisseurs ou des gros clients, moi-même. Ce sont des fournisseurs ou des gros clients. Moi-même, je connais ce numéro pour joindre mon patron en cas d'urgence. L'autre téléphone paraît beaucoup plus mystérieux. Il sonne très rarement. Si je suis dans le bureau, il me fait sortir avant de répondre. Après ces appels, le patron est généralement songeur, inquiet même. Il est donc possible que ces appels viennent des gens avec qui il est en affaire et avec qui il a peut-être rendez-vous en mer. Peut-être reçoit-il un appel pour lui donner rendez-vous avant chacune des sorties du yacht. Bien sûr, tout ça est à vérifier. Par contre, il peut aussi bien recevoir ses appels en dehors des heures de bureau, et là, je n'ai aucune chance de le savoir. Eh bien, dis-je, nous pouvons exercer une surveillance discrète mais continue du yacht, et toi, Henriette, tu nous préviens dès que le fameux téléphone sonne. Nous verrons bien si ces appels correspondent à des rendez-vous en mer. Je pense encore à quelque chose, ajouta Stéphane en s'adressant à Yvette et à Amélie. Vous avez passé la journée sur le port à surveiller le yacht de Jean-Claude Martin. Vous étiez caché quelque part ? Non, au contraire. On déambulait sur les pontons, on s'asseyait sur les bancs, on repartait. Je ne crois pas que quelqu'un nous ait repérés. Admettons, mais au bout d'une semaine, vous serez forcément remarqué, même si vous changez régulièrement de têtes et de tenues. Beaucoup d'hommes n'ont pas les yeux dans leurs poches quand ils voient passer de jolies filles. Et comment ferez-vous la nuit ? Car on a bien dit qu'il sortait souvent de nuit. Personne ne sut quoi répondre. Stéphane reprit. Il faut que je voie avec mon patron, mais j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Nous avons bien 5 ou 6 bateaux dans le port que nous sommes chargés de surveiller en l'absence des propriétaires. Ils nous paient pour cela. Nous avons les clés et régulièrement, nous allons faire une petite visite, vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans les fonds, mettre le moteur en marche. Je vais lui demander s'il n'y en a pas un sur lequel vous pourriez vous installer. On a quelques clients très cool et très sympas. Dans la mesure où vous êtes installé sur un bateau, vous pouvez traîner sur le port toute la journée et même la nuit, tout le monde trouvera ça normal. Demain matin, je lui pose la question. Habiter sur un bateau, ce doit être génial ! S'enthousiasma Ursula. Le lendemain midi, Henriette ne déjeuna pas avec nous, mais Stéphane revint avec une réponse positive. Nous avons un vieux voilier de 11 mètres en bois, un peu pourri, que nous continuons à surveiller par pure conscience professionnelle, car il y a 2 ou 3 ans que nous n'avons pas vu le propriétaire, ni reçu le moindre chèque pour nos services. Voilà la clé avec le numéro d'emplacement, vous pouvez vous y installer. Le patron dit de l'appeler si quelqu'un vous fait la moindre remarque. Il aimerait bien avoir quelqu'un à engueuler et à qui réclamer son argent. Pendant que Stéphane et Henriette retournaient au travail, nous partîmes toutes les 4 visiter notre bateau, car c'était déjà notre bateau. Il n'était pas amarré sur le même ponton que le yacht de Jean-Claude Martin, mais presque à la même hauteur sur le ponton suivant, de sorte que nous pourrions effectuer la surveillance sans descendre à terre. Le Vif Argent, c'était le nom du voilier, était dans un triste état. Sur le pont, tout paraissait vieux et pourri. Nous n'aurions eu aucune confiance à sortir en mer sur ce rafiot à bout de souffle, mais pour vivre dedans à quai, cela pouvait aller. L'intérieur, étroit et peu logeable, ayant moins souffert des intempéries, était en meilleur état. Nous dûmes ouvrir tous les hublots et les capots qui n'étaient pas bloqués pour aérer et tenter d'atténuer l'odeur écœurante de moisie et de gasoil. Nous avions apporté des bouteilles d'eau, des couvertures, un réchaud de camping et quelques provisions. Amélie et Ursula restèrent sur place pour la soirée et la nuit, tandis que je rentrais chez Stéphane avec Yvette. Vers 18h, Amélie appela sur le portable d'Yvette. « Il y a un bonhomme qui est monté sur le yacht, grand et costaud, la soixantaine, cheveux gris en brosse, sans doute Jean-Claude Martin. »« Qu'est-ce qu'il fait ?»« Il fait le tour du bateau. Il a l'air assez agité. On dirait qu'il cherche quelque chose. Il n'a pas démarré le moteur pour l'instant. »« D'accord, essayez de le prendre en photo, mais discrètement, hein ?» Amélie rappela 10 minutes plus tard. « Jean-Claude Martin est reparti. » Quelques minutes plus tard, Henriette nous rejoignit chez Stéphane. Elle vint tout de suite à moi. « Je ne sais pas ce que vous avez fait hier chez Jean-Claude Martin, mais vous avez sûrement laissé des traces de votre passage. Ce matin, il est arrivé furieux, il houspillait tout le monde. Toute la journée, je l'ai senti à cran. Ce midi, je n'ai même pas pu aller déjeuner. Il a voulu que je boucle 2 dossiers de toute urgence. » Je ne sais pas si c'est ce que tu cherchais, mais il me semble que ton expédition d'hier a fait l'effet d'un coup de pied dans une fourmilière. Ce n'est pas ce que je cherchais, mais c'est peut-être une bonne chose. S'il panique, il risque d'être moins prudent et de faire des erreurs. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que les filles l'ont vu faire le tour complet de son bateau. S'il s'est rendu compte que sa maison a été fouillée, il voulait peut-être savoir si son bateau l'avait été aussi. Un peu plus tard, nous finissions de dîner lorsque le portable d'Yvette sonna. C'était Amélie et Ursula. Jean-Claude Martin est revenu. Il est monté sur son bateau, a démarré le moteur, largué les amarres et il vient de partir. Il avait l'air pressé. Il est en train de sortir du port. Bon, merci pour l'info. On ne peut rien faire pour l'instant, mais dès qu'il reviendra, prévenez-nous et récupérez discrètement le GPS. D'accord. « Je l'aperçois, il est maintenant sorti du port, il a mis les gaffes et fonce vers le large. Avec la nuit qui tombe, nous allons rapidement le perdre de vue. » Henriette nous dit « Je n'ai pourtant pas entendu sonner le téléphone secret, mais l'appel a peut-être eu lieu en dehors des heures de bureau, ou alors je me trompe complètement et ça n'a aucun rapport. » J'espérais de tout mon cœur que cette piste était solide et que nous allions pouvoir la remonter jusqu'au bout sans la perdre, sans nous faire repérer et sans nous faire pincer, car je commençais à me rendre compte que plus nous approchions du but, plus nous prenions de gros risques. J'eus beaucoup de mal à dormir cette nuit-là. Qu'est-ce que Jean-Claude Martin avait bien pu aller faire en mer en pleine nuit? Et quel rapport pouvait-il y avoir avec la disparition d'Antoine? Je finis tout de même par m'assoupir et je me réveillai brusquement en entendant la sonnette de la porte d'entrée. Mon cœur se mit à battre dans ma poitrine, je me levai, descendis l'escalier 4 à 4 et fonçai pour ouvrir. Mais Stéphane m'avait devancé. Il avait déjà ouvert et laissé entrer Amélie et Ursula, essoufflées et toutes rouges. « Voilà, dit Ursula, le bateau est rentré. » Nous avons attendu que Jean-Claude Martin remonte dans sa voiture et s'en aille, et nous avons foncé récupérer le GPS. Le temps de reprendre nos vélos, et nous sommes arrivés ici au plus vite. Je voulais revenir seule et laisser Amélie continuer la surveillance, mais elle a préféré venir avec moi, prétextant que ce n'était pas prudent de nous séparer. Elle a eu bien raison, dis-je, car je commençais à avoir réellement peur pour mes amis. Amélie était notre spécialiste en informatique. Elle s'occupa de raccorder le GPS sur l'ordinateur de Stéphane et bientôt nous eûmes sous les yeux le parcours exact du yacht de Jean-Claude. Il avait doublé l'île de Porquerolles et s'était arrêté en pleine mer pendant presque 1 heure. Bien sûr, le GPS, malgré sa précision, ne nous donnait aucune autre indication sur ce qui s'était passé en mer et nous restions avec toutes nos questions. C'était un caméscope que nous aurions dû planquer à bord, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Je proposai à mes 2 amies de prendre leur place pour finir la nuit à bord du voilier. Elles pourraient ainsi dormir dans un bon lit, prendre une douche et traîner un peu le lendemain matin. Il fut convenu qu'elles viendraient me relayer en début d'après-midi. Les deux filles avaient bien prévu de profiter de leur séjour sur le vieux voilier pour bronzer un maximum. Elles avaient préparé tout ce qu'il leur fallait pour être au top. Serviettes de bain, crème solaire, bouquins et même un poste radio CD. Empruntant un vélo, je retournais donc au port. Je me promenais sur les pontons comme quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. En passant près du yacht, je remis le GPS à sa place sous le radeau de survie. Puis j'allais m'installer sur le voilier pour finir la nuit. Beaucoup d'idées bouillonnaient dans ma tête, mais ayant à peine dormi depuis le soir, je finis par m'assoupir et quand je m'éveillais, le soleil était déjà haut dans le ciel. Mon premier réflexe fut de jeter un coup d'œil au yacht. Il n'avait pas bougé. Après avoir petit déjeuné, je m'installai confortablement sur le pont au soleil pour réfléchir. Si, dans sa première partie, l'enquête sur la disparition d'Antoine avait bien avancé, j'avais de plus en plus de doutes sur la solidité de mon raisonnement depuis mon retour ailleurs. Sans doute, Jean-Claude Martin était un homme bizarre, sans doute il avait une vie privée particulièrement louche, sûrement des activités de contrebande, mais était-il mêlé à la disparition d'Antoine? J'en étais de moins en moins certaine. Toute l'accusation reposait sur des impressions ressenties par Yvette et par Henriette. Cela ne faisait pas une piste bien solide. Nous prenions peut-être de gros risques à courir après une bande de trafiquants qui n'avait peut-être aucun rapport avec la disparition d'Antoine. En même temps, pouvions-nous abandonner? Quant à demander à la police de reprendre l'enquête, c'était difficile, nous n'avions que des impressions, des doutes, des raisonnements à leur confier. Le seul élément concret, c'était la découverte du cachot et j'avais envoyé les photos à papa. Que faire de plus? Je finis par m'assoupir de nouveau au soleil. En début d'après-midi, Amélie et Ursula vinrent me rejoindre avec de bonnes réserves de nourriture. Elles s'installèrent pour 24 heures. Je devais les remplacer le lendemain après-midi. Yvette voulait m'accompagner pour faire sa part de surveillance dans les recherches menées pour retrouver son mari, mais je refusais qu'elle se montre sur le port. Jean-Claude Martin la connaissait bien et s'il la rencontrait sur le port, installée sur un voilier pourri non loin de son yacht, il ne manquerait pas d'être surpris et de se croire surveillé. De plus, Yvette avait des affaires à régler avec ses enfants. Une journée passa. Le lendemain, alors que nous finissions de déjeuner et que je me préparais à partir pour le port, Henriette m'appela. Le téléphone mystérieux venait de sonner dans le bureau de son patron. Stéphane était à côté de moi. Il allait partir reprendre le travail sur le chantier. Il entendit le message d'Henriette. Après avoir accroché, je lui lançai un regard interrogatif. Après quelques secondes de réflexion, il me déclara « Bon, pas de panique. Ce serait surprenant qu'il parte en plein jour et pendant ses heures de travail. C'est sûrement pour ce soir à la tombée de la nuit. Rejoins tes amis comme prévu et moi je tâcherai de quitter le chantier de bonne heure. Je prendrai le canot et j'irai attendre au point indiqué par le GPS. Je viens avec toi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, ce peut être dangereux. Justement, pas question de te laisser prendre des risques tout seul. Je viens avec toi. Pour le moment, je vais remplacer les filles pour qu'elles se détendent cet après-midi et je leur demanderai de revenir ce soir guetter le départ du yacht. À quelle heure comptes-tu partir ? Si tu me rejoins au chantier vers 5 heures, ça devrait aller, le temps de nous préparer et de faire tranquillement les 20 000 jusqu'au point de rendez-vous. Nous y serons bien avant la nuit. Eh bien, d'accord, à ce soir. Bon après-midi. Comme prévu, Amélie et Ursula prirent du bon temps durant l'après-midi, plage et lèche-vitrine. Elles revinrent me relever vers 4h30. Je retrouvai Stéphane au chantier. Il avait prévu 2 cirés, une lampe torche, du matériel de pêche, une carte marine, un GPS portable qu'il s'était fait prêter et un jerrycan de gasoil en réserve. Moi, j'arrivais avec des sandwichs, 2 bouteilles d'eau et l'appareil photo dans sa pochette étanche. Au moment d'embarquer, mon portable sonna. Quand je dis mon portable, c'était celui qu'Yvette m'avait prêté. Henriette appelait de son bureau pour dire que le téléphone mystérieux venait de sonner de nouveau, que Jean-Claude Martin avait pris la communication et qu'il paraissait très soucieux. Il y avait donc toutes les chances qu'il sorte en mer ce soir. J'embarquai avec Stéphane dans son canot. Le moteur démarra sans problème et fit entendre son tap-tap régulier et rassurant. Je larguai les amarres. Stéphane embraya et mit les gaz. La mer était belle, le soleil brillait, le vent léger ne formait que de petites vaguelettes. Le temps était idéal, il fallait seulement faire attention aux nombreux bateaux de touristes qui sillonnaient la mer en tous sens. Stéphane m'apprit qu'avec un bateau à moteur, nous devions la priorité à tous les voiliers que nous croisions. Je trouvais merveilleux cette occasion de sortie en mer, surtout avec Stéphane pour guide. Pendant un bon moment, j'essayai de ne plus penser à notre enquête pour me concentrer sur mon bonheur et ne pas en perdre une miette. Cette occasion ne se renouvellerait peut-être pas avant longtemps. Il nous fallut presque 3 heures pour contourner l'île de Porquerolles et rejoindre le point indiqué par le GPS. Le moteur faisant beaucoup de bruit, la conversation fut réduite à quelques exclamations hurlées dans le vent. Stéphane se tenait à la barre, à l'arrière, tandis que je m'étais installé tout à l'avant, savourant le plaisir de glisser sur l'eau en me faisant chahuter par les vagues. Quand Stéphane coupa enfin le moteur, nous n'apercevions plus que les hauteurs de Porquerolles dans la brume de fin de journée. La mer était pratiquement déserte. La plupart des bateaux étaient maintenant rentrés au port ou sur le point d'y rentrer. Ils naviguaient beaucoup plus près des côtes. L'endroit était effectivement bien choisi pour un rendez-vous discret. Maintenant, ce rendez-vous aurait-il lieu ce soir? Nous en étions presque sûrs. Aurait-il lieu au même endroit que le dernier? Nous nous efforcions de le croire, mais nous n'avions aucune certitude. Il nous restait à attendre. J'appelai Amélie pour lui signaler que nous étions arrivés au point de rendez-vous. Elle m'informa que le yacht n'avait toujours pas bougé, mais qu'elle me contacterait dès qu'il se passerait quelque chose. Stéphane et moi, nous nous attaquâmes au stock de sandwichs. Puis, quand les estomacs furent calés, nous commençâmes à préparer le matériel de pêche. Stéphane avait emprunté à son patron 2 cannes à mouliner et il me montra comment monter des bas de ligne. Le téléphone sonna. Amélie nous annonça que Jean-Claude Martin venait de rejoindre son bateau. Il avait mis les moteurs en marche et il paraissait évident qu'il allait partir. Nous cherchâmes à calculer dans combien de temps nous verrions apparaître le yacht. Mais, comme je l'ai dit, les maths n'étaient pas mon fort et nous nous perdîmes dans les calculs. Comme nous n'avions rien de mieux à faire, nous nous mîmes à pêcher en discutant. Stéphane me parla de ses projets à Lyon pour l'année prochaine et je lui racontai que si j'étais reçu au bac, je devais entrer dans une école de commerce à Annecy. Ce n'est pas que j'étais passionné pour le commerce, mais il fallait bien faire quelque chose, et comme je n'avais pas trop d'idées, le commerce avait l'avantage d'ouvrir à toutes sortes de métiers. Le vent était tombé tout à fait, et nous commencions à nous sentir vraiment seuls au milieu de cette immense étendue d'eau. Le soleil terminait tranquillement sa descente et commençait à virer à l'orange avant de plonger dans l'eau, quand un point apparut à l'horizon. Il semblait grossir assez rapidement et venait de l'est. De ce côté, ce ne pouvait pas être Jean-Claude Martin. « Mais ce pourrait bien être notre rendez-vous, » me dit Stéphane, après avoir jeté un coup d'œil dans ses jumelles marines. « Peut-être un Italien. » À ce moment, je sentis comme un nœud se bloquer dans ma gorge. Tous mes nerfs se tendirent. Une sorte d'appréhension irréfléchie m'envahit. Je dus faire un gros effort sur moi-même pour me raisonner et essayer de me détendre. J'essayai de me convaincre que nous ne risquons rien, nous n'étions qu'une petite barque de pêche comme tant d'autres au large des côtes. Nous ne serions que des témoins, présumés involontaires, d'un rendez-vous entre 2 bateaux. Nous ne verrions sans doute rien de ce qui se passerait ou de ce qui se dirait entre ces 2 bateaux. Notre but était seulement de repérer et d'identifier au mieux ce bateau inconnu. Stéphane reposa brusquement ses jumelles. Je tendis la main pour les prendre à mon tour. « Je peux voir ?» demandai-je. « Non, c'est trop risqué. À cette distance, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf s'ils ont aussi des jumelles. À partir de maintenant, nous devons jouer au mieux notre rôle de pêcheurs. Ils ne doivent avoir aucun doute sur nos intentions. Par contre, dès qu'ils seront plus près, il faudra s'arranger pour les prendre discrètement en photo, l'arrière surtout, pour avoir leur immatriculation. Pour ça, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Nous avions enfilé nos cirés et je gardais l'appareil photo dans sa pochette étanche, pendue autour du cou, de sorte que je pouvais facilement faire des photos en entrebâillant légèrement mon ciré. Le point avait grossi rapidement et on distinguait déjà un gros bateau à moteur qui fonçait droit sur nous. Bientôt, on entendit le grondement des moteurs et on vit apparaître un superbe yacht tout blanc qui devait bien faire deux fois la taille de celui de Jean-Claude Martin. « À vue de nez, il fait au moins 25 mètres, » déclara Stéphane. Le monstre ralentit, s'approcha, passa tout près de nous et alla s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin. Stéphane fit mine de chercher quelque chose au fond du canot et me signala « Un point qui grossit venant de Porquerolles. C'est sûrement Jean-Claude Martin qui arrive au rendez-vous. Je ferais peut-être bien de téléphoner à Amélie ou à Yvette pour les tenir au courant. » « Non, non, nous ne sommes que deux pêcheurs qui se trouvent là par hasard. Il ne faut surtout pas nous faire repérer. Évitons tout geste suspect. » Le soleil venait de plonger dans la mer et la luminosité se mit à décroître rapidement. Stéphane alluma le feu de mouillage. Bientôt, nous pûmes reconnaître le bateau de Jean-Claude Martin qui arrivait, ses moteurs poussés à fond, rejetant des gerbes d'écume de chaque côté de son étrave. Il ralentit et, sans paraître marquer la moindre attention à notre canot, il vint directement se ranger contre le gros yacht qui l'attendait. Comme nous nous y attendions, il nous fut impossible de savoir ce qui se passait entre les deux bateaux. « C'est dans la boîte, » dis-je à Stéphane en mettant la main sur l'appareil photo. « Ne ferait-on pas mieux de s'éloigner maintenant ?»« Non, je ne crois pas. Il ne faut surtout pas avoir l'air de fuir. » Les pêcheurs sont réputés pour leur patience à toute épreuve. Continuons à pêcher comme si de rien n'était. D'ailleurs, nous n'avons encore rien pris et, en véritables pêcheurs que nous sommes, nous ne voulons pas rentrer bredouille. Nous prendrons la route du retour quand nos amis auront fini leur conversation et qu'ils seront repartis chacun de leur côté. Les deux yachts restèrent à couple une demi-heure environ. Il faisait pratiquement nuit quand Jean-Claude Martin remit son moteur en marche, se dégagea, fit demi-tour et, le lançant à plein régime, repartit tout droit vers Porquerolles. Vu la brusquerie de sa manœuvre, nous crûmes comprendre qu'il partait fâché et que la rencontre ne s'était pas terminée comme il l'avait désiré. Immédiatement après, le gros yacht remit lui aussi ses moteurs en marche. « Eh bien, nous allons bientôt pouvoir rentrer, » commenta Stéphane. Tout en continuant à avoir l'air absorbé par notre pêche, nous gardions un œil sur le yacht qui entamait sa manœuvre. Il pivota sur place de façon à nous montrer son étrave, puis les moteurs rugirent et il s'élança droit sur nous. « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » m'écriai-je en prenant peur. Stéphane ne répondit pas, mais il mit sa main sur mon bras. Le gros bateau prenait de la vitesse et venait toujours droit sur nous. Il n'était qu'à une centaine de mètres et il grossissait à vue d'œil. C'était terrifiant. Il fallait qu'il vire immédiatement, mais curieusement, il ne semblait pas avoir l'intention de le faire. Il ne lui restait plus que quelques secondes pour nous éviter. Stéphane comprit alors qu'il ne virerait pas et que son intention était bien de nous écraser. « Vite, saute ! » cria-t-il. Et il me tira vigoureusement par le bras, m'entraîna avec lui pour plonger par-dessus bord.